Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une des blocages menés par des routiers pour réclamer des augmentations de salaire. Cela ressemble à un coup de semonce avant la rentrée. On rejoindra Guillaume Dominguez sur un point de blocage en Seine-et-Marne. Avec Carole Ferry, on verra ce que prévoit le gouvernement pour son projet de loi pouvoir d'achat, augmentation des prestations sociales et plafonnement de l'augmentation des loyers. Les dernières heures ce matin du procès des islamistes et de leurs complices des attentats du 13 novembre, avec les derniers mots de Salah Abdeslam. Gladys Laffitte suit ce procès pour Europe 1. On ira également en Allemagne pour le sommet du G7. Les pays les plus riches de la planète veulent accroître la pression économique sur la Russie. Pouvoir d'achat, économie d'énergie, on en parle avec vous au 39-21 et avec Benjamin Lucas, député NUPES, tendance écologiste des Yvelines. Bonjour, bonjour. Benjamin Lucas. Et avec Jean-Noël Barrot, député Renaissance des Yvelines. Bonjour.
Modem. Et secrétaire général.
Bien sûr. Bonjour, merci d'être avec nous également et on se retrouve dans un instant. Des barrages filtrants à l'entrée de plusieurs zones industrielles du pays. C'est de cette façon que les syndicats de transporteurs routiers ont décidé de montrer leur colère face à leur salaire jugé insuffisant malgré deux revalorisations successives depuis le début de l'année. Depuis 3 heures, ce matin, des actions sont menées dans le Nord, les Bouches-du-Rhône, en Meurthe-et-Moselle ou encore en Seine-et-Marne où l'on vous retrouve, Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous êtes à Moissy-Cramayel, dans la zone industrielle du parc de Chanteloup, où il reste encore des camions, hein ?
Oui, ici, il faut dire que la mobilisation commence un petit peu à s'essouffler. Il y reste une trentaine de manifestants qui ont commencé à faire cuire quelques saucisses le long des camions à l'arrêt. Le gros du blocage a eu lieu un petit peu après 8 heures ce matin. Les manifestants ont bloqué l'entrée et la sortie du parc de Chanteloup pour les poids lourds. Tous dénoncent ici des salaires qui ne leur permettent plus de vivre correctement. Arnaud est convoyeur de fonds depuis 20 ans. Son secteur est lui aussi soumis aux conventions des transporteurs. Il gagne 1 600 € par mois et pour la première fois, il n'arrive pas à joindre les deux bouts.
J'ai fait un plein d'essence, tout simplement, 130 €. On repart 6 mois, voire 1 an en arrière, j'étais à 80 €. Donc vous comptez une supplément de 50 € par plein, vous comptabilisez 3 à 4 pleins mensuels, vous avez un budget de 200 € supplémentaires imprévus dans votre budget et qui aujourd'hui impacte tous les foyers. Maintenant, des paniers alimentaires, bah, c'est la même chose. Vous allez faire 150 € de course, vous avez l'impression que vous n'avez rien dans votre frigo.
Voilà, et pour vivre correctement, Arnaud estime qu'il lui manque 500 € par mois. Le constat est le même pour Jean-Claude, lui est chauffeur routier depuis 35 ans. Et pour lui, ce sont aussi les conditions de travail qu'il faut revoir.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est quand même des smicards de la route. On n'est même pas à 11 € de l'heure. Nous, ce qu'on demande, c'est des nouvelles négociations et qu'on prenne un petit peu plus en compte aussi tout ce qui est pénibilité. Parce que dans notre métier, on ne voit pas grandir nos gosses. On est sur la route 10 heures, voire 11 heures par jour. Voilà, on voudrait que ça avance un petit peu. On voudrait que le patronat ouvre enfin les yeux sur tout ça.
Alors ici, le blocage devrait durer encore jusqu'à 14 heures. Mais les syndicats annoncent déjà vouloir mettre en place d'autres mouvements de grève s'ils ne sont pas entendus aujourd'hui.
Merci beaucoup Guillaume Dominguez en direct de Moissy-Cramayel. Et les syndicats menacent d'organiser une grève nationale encore plus importante en septembre, donc si le patronat et le gouvernement ne répondent pas favorablement à leurs demandes. C'est le premier texte majeur du second quinquennat d'Emmanuel Macron, celui qui porte sur le pouvoir d'achat des Français fortement impacté par l'inflation. Il devrait être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet prochain, mais quelques mesures qui seront proposées ont déjà fuité, relayées notamment par les Échos. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
On a des précisions sur les projets du gouvernement qui veut revaloriser les prestations sociales et plafonner l'augmentation des loyers.
Oui, alors sur la revalorisation des minima sociaux par exemple, elle est confirmée et les Échos précisent le montant 4%, 4% de plus pour les retraites, mais aussi les allocations familiales, le RSA, les allocations de Pôle emploi ou bien encore la prime d'activité. Concernant le SMIC, le gouvernement veut se donner plus de pouvoir pour contraindre les branches qui conservent des grilles de salaire sous le minimum légal à les revaloriser. Par contre, plus de chèque alimentaire à ce stade. La mise en place serait trop complexe. À la place, un chèque inflation de 100-150 euros pourrait être versé aux plus modestes. Selon l'AFP, la prime transport pour les salariés sera également revalorisée pour les déplacements domicile-travail. Et puis le texte prévoit effectivement un bouclier logement. Alors il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera tout de même plafonnée à 3,5% pendant un an. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% cet été.
Voilà, un nouveau coup de pouce donc pour le porte-monnaie des Français qui devrait coûter jusqu'à 8 milliards d'euros pour les finances publiques. Pourtant, Carole, ce matin, le ministre de l'économie s'est montré alarmiste. Il estime qu'on a atteint la cote d'alerte en matière de dépenses.
Et oui, alors que l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition sur ce texte pouvoir d'achat, Bruno Le Maire met en garde sur les limites de la dépense publique. Les conditions de financement ont changé, explique-t-il, au moment du quoi qu'il en coûte. La France empruntait à des taux négatifs, voire nuls. Aujourd'hui, on emprunte à 2%, il devient donc beaucoup plus coûteux de s'endetter. Bruno Le Maire qui demande par ailleurs un effort supplémentaire à Total Énergie pour participer à l'effort collectif. Le ministre de l'économie demande aux géants pétroliers de poursuivre sa baisse de 10 centimes sur les carburants en milieu rural.
Merci beaucoup Carole. L'actualité judiciaire. On entre dans les trois derniers jours du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Le verdict est attendu pour mercredi soir après 9 mois d'audience. Et ce matin était un moment clé pour les 14 accusés présents dans le box. Gladys Laffitte avec nous. Bonjour Gladys.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les accusés ont pu, chacun leur tour, s'exprimer une dernière fois à la barre.
Oui, et c'est Salah Abdeslam qui s'est exprimé en dernier, longuement, le ton solennel. Il dit regretter ces paroles qu'il qualifie de dures au début du procès en septembre, qu'il explique par un choc social après 6 ans d'isolement. Et il le répète, ses excuses aux victimes sont sincères. Et puis l'accusé qui risque la prison à perpétuité incompressible prévient la cour. J'ai reconnu que je n'étais pas parfait, mais je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Des mots perçus comme sincères par Philippe Duperron. Il a perdu son fils au Bataclan et préside l'association de victimes 13-11-15 Fraternité et Vérité.
Je pense malgré tout qu'il a lui aussi sincèrement exprimé l'évolution qu'on a bien tous constatée au cours de ce procès. Tout cela, évidemment, n'est pas à confondre ni avec les réquisitions, ni avec la décision qui sera rendue. Et il y avait de la sincérité, de l'émotion pour tous.
Voilà, d'autres accusés se sont exprimés. Certains étaient essoufflés, émus, disant leur peur du verdict, leur innocence, mais surtout leurs excuses aux victimes, comme Mohamed Abrini, qui est plus connu sous le nom de l'homme au chapeau. Je n'ai pas attendu le procès pour avoir des remords. Quelque part, j'aurais pu arrêter tout ça. Voilà, leur sort est désormais entre les mains de la cour et des magistrats professionnels qui se sont retirés pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi soir.
Gladys Laffitte, merci Gladys. Cette information à un adolescent de 15 ans a été tué par balle à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'est passé hier soir dans un quartier qu'on qualifie de populaire de la ville, le quartier des Griffeuils. Là-bas, le trafic de stupéfiants est une réalité bien connue. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Pour le moment, on n'est pas certain que la victime soit elle-même impliquée dans une affaire de drogue.
Oui, parce que cet adolescent de 15 ans n'était pas connu des services de police. Il pourrait s'agir, avance prudemment une source policière, d'une victime collatérale d'un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants dans le quartier de Griffeuil à Arles, là où les policiers sont déjà intervenus il y a une semaine pour des coups de feu. Et ils sont revenus hier soir dans ce même quartier après cette nouvelle fusillade. Vers 22h, 4 adolescents qui étaient en train de marcher dans la rue ont été visés par des tirs d'armes à feu, des tirs qui provenaient d'une voiture en mouvement avec plusieurs personnes à bord et qui s'est approché de ce groupe pour le viser délibérément. Ce jeune de 15 ans est le seul à avoir été touché par les tirs. Il a été transporté à l'hôpital, mais il n'a pas survécu à ses blessures. La voiture des auteurs a été retrouvée incendiée à Saint-Martin-de-Croix, située à une vingtaine de kilomètres de la scène de crime. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Marseille. Depuis le début de l'année, 16 personnes sont mortes par balle sur fond de trafic de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône, principalement à Marseille, mais d'autres villes sont aussi touchées, comme Arles, donc Aix-en-Provence ou encore Avignon.
William Molinier, merci beaucoup William. Il est midi 9, restez bien avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. Dans un instant, on va aller en Allemagne. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est adressé au chef d'État du G7. On va y rejoindre Arthur Delaborde. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La séquence internationale se poursuit pour Emmanuel Macron qui est au sommet du G7 en Allemagne jusqu'à demain. Les dirigeants des plus grandes puissances mondiales ont discuté de nouvelles sanctions contre l'économie russe. Joe Biden et Boris Johnson ont déjà promis un embargo sur l'or russe. Arthur Delaborde est avec nous. Arthur, c'est une façon de faire bloc derrière l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky qui s'est d'ailleurs adressé en milieu de matinée au chef d'État du G7. Hein.
Oui, il les a d'abord alertés sur la dégradation de la situation sur le terrain au lendemain de nouveaux bombardements sur Kiev, citant des chiffres alarmants. Jusqu'à présent, selon lui, 15 missiles russes étaient tirés en moyenne par jour en Ukraine et c'est monté à 62 pour la seule journée d'hier. Au total, selon le président ukrainien, ce sont 3800 missiles russes qui ont été tirés depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky a donc appelé les dirigeants du G7 à intensifier l'aide en matière de défense et à augmenter les livraisons d'armes. Il s'est aussi inquiété des conséquences du conflit en matière de sécurité alimentaire, soulignant le besoin de débloquer au plus vite les exportations agricoles du pays. Selon l'ONU, 22 millions de tonnes de céréales sont actuellement dans les silos en Ukraine. Or, il y a un besoin urgent de faire de la place pour les prochaines récoltes, autrement dit de sortir les grains et trouver des capacités de stockage. Le président ukrainien a aussi renouvelé son appel à intensifier les sanctions contre la Russie. Et en conclusion, un peu plus de 4 mois après le début du conflit, Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il fallait absolument tout faire pour que la guerre soit achevée d'ici la fin de l'année. Il redoute en effet un hiver particulièrement rude durant lequel les positions seront figées, ce qui risque de rendre les combats encore plus difficiles.
Merci beaucoup Arthur. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1, donc en Allemagne, au château d'Elmau, en Bavière, donc pour suivre ce sommet du G7. La présidente de la Commission européenne se projette d'ailleurs déjà au mois de novembre et au prochain sommet du G20. Ursula von der Leyen se dit favorable à une participation des dirigeants occidentaux et ce, même en cas de présence de Vladimir Poutine. Le procès de Jean-Marc Reiser va s'ouvrir cet après-midi devant les assises du Bas-Rhin, ce sexagénaire qui est accusé d'avoir assassiné Sophie Le Tan, une jeune étudiante dont le corps avait été découvert démembré dans une forêt. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Bonjour Mélina.
Merci. Bonjour Romain.
Rappelons d'abord les faits. Tout a commencé par la disparition de Sophie Le Tan en septembre 2018, le jour de ses 20 ans.
Oui, ce jour-là, l'étudiante part visiter un appartement tout près de Strasbourg et se volatilise. En quelques jours, l'unique suspect est arrêté et mis en examen. C'est Jean-Marc Reiser, celui qui a passé l'annonce pour l'appartement. Il a déjà un lourd passé judiciaire. 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle, des cambriolages. Il a également été acquitté en 2001 pour le meurtre d'une autre jeune fille dont le corps n'a jamais été retrouvé. Même après la découverte du cadavre de Sophie Le Tan, plus d'un an après sa disparition, Jean-Marc Reiser continue de nier toute implication, mais face à des preuves accablantes, notamment du sang de la jeune fille retrouvée chez lui, il finit par avouer le meurtre. En revanche, il nie toute préméditation et cette question sera au cœur du procès. Laurent Trintvenmang, le cousin de Sophie Le Tan, n'attend rien de Jean-Marc Reiser.
C'est quelqu'un qui a toujours menti depuis le début, mais nous espérons avoir en tout cas beaucoup de réponses sur ce qui s'est passé. S'il a été violent, pourquoi ne s'était-il pas arrêté avant et aller jusqu'à donner la mort à Sophie? Et encore, pourquoi se transformer en boucher jusqu'à la découper et l'abandonner dans une forêt comme un vulgaire animal?
Le procès va durer 7 jours jusqu'au mardi 5 juillet. Jean-Marc Reiser encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Mélina Fachin en direct de Strasbourg. Merci Mélina. Du tennis à présent avec la 135e édition du mythique tournoi de Wimbledon qui s'ouvre aujourd'hui en Angleterre. Un tournoi sans joueurs ni joueuses russes ni biélorusses d'ailleurs. Conséquence de la guerre en Ukraine, décision contestée par les plus hautes instances du tennis qui, en guise de protestation, ont décidé de ne pas attribuer de points au classement mondial à l'issue du tournoi. On craignait alors que les plus gros noms du tennis boudent la compétition. Il n'en est rien, Colin Abgral. Hein.
Oui, après l'imbroglio entre Wimbledon, l'ATP et la WTA, le doute planait quant à la venue des plus grands joueurs et quant à l'intérêt qu'aurait ce tournoi sans eux et sans le numéro 1 mondial, le russe Daniil Medvedev. Mais selon Patrice Agelauer, ancien directeur technique national, les joueurs ne viennent pas seulement pour grimper au classement.
Wimbledon, c'est vraiment un tournoi à part. Même l'argent, même les points, tout ça a moins d'importance. Il y a le poids de l'histoire, il y a le poids de la tradition. Je crois que c'est le tournoi le plus prestigieux qui existe et les points n'ont vraiment que peu d'intérêt pour les joueurs.
Pour preuve, les stars sont bien au rendez-vous. Raphaël Nadal tentera de soulever un troisième trophée du Grand Chelem cette année face à Novak Djokovic, triple tenant du titre. Chez les femmes, il faudra scruter l'américaine Serena Williams, 40 ans, 23 titres en Grand Chelem. Elle effectue son grand retour sur le gazon londonien après un an sans avoir joué. Et puis du côté des Français, ils seront 18, 10 hommes et 8 femmes pour faire mieux qu'à Roland-Garros où aucun d'entre eux n'avait atteint la deuxième semaine.
Colin Abgral et les Français Adrian Manarino et Hugo Humbert sont sur le court depuis quelques minutes pour leur premier match. Dès 14h30, heure française, entrée en lice du Serbe Novak Djokovic face au Coréen Kwon. La météo à présent avec vous Anissa Haddadi avec de nouveaux orages.
Oui, les pluies de ce matin deviennent orageuses, effectivement, dans le nord-est, sur des départements qui ont déjà été fortement touchés hier et la nuit dernière. C'est donc entre les Alpes du Nord et l'Alsace, en passant par la Franche-Comté et la Bourgogne, que nous allons avoir des orages localement assez violents. Le tonnerre gronde également cet après-midi entre la Lozère et l'Hérault, partout ailleurs. Mais le temps est beaucoup plus calme, avec sur le grand quart nord-ouest et le pourtour méditerranéen, des éclaircies qui alternent avec quelques passages nuageux au bord de la Méditerranée. On a du vent, hein. Mistral et Tramontane cet après-midi se lèvent. Les températures, il fait chaud dans le sud, 34 pour Ajaccio et Marseille, 32 à Nîmes, 31 à Montpellier et Bastia, 29 à Nice, 25 pour Grenoble. Ailleurs, il fait plus frais grâce aux orages, 23 à Paris et Lyon, 21 à Nancy, 19 à Clermont-Ferrand et 18 pour Brest.
Merci Anissa, midi 19, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on parle pouvoir d'achat, on parle effort pour réduire notre consommation d'énergie avec vous. Vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne. Et on est également avec Benjamin Lucas, député NUPES, tendance écologiste des Yvelines, et Jean-Noël Barraud, député MoDem des Yvelines. A tout de suite.